Les femmes atteintes de maladies rhumatismales et psoriasiques et d'arthrite inflammatoire partagent leurs expériences sur la santé reproductive et sexuelle dans un sondage dont les résultats ont été publiés tout récemment. Pour en parler, on joint Kimberly Séguin, infirmière, nouvelle maman, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Bonjour, Madame Séguin.
Bonjour.
Félicitations pour votre nouveau-né.
Bien, merci beaucoup.
Il ou elle a quel âge, si je peux me permettre?
Il a 20 mois.
20 mois?
Oui.
Alors, ben, ça s'approche du 2 ans, ça.
Oui, ça s'approche très rapidement.
Alors, Madame Séguin, quelles sont les organisations qui ont mené ce sondage-là?
C'est le CAP, c'est la Fondation spondylite ankylosante de Canada et le CAPA.
Donc, à quel âge est-ce que les femmes touchées par les conditions là, que j'ai mentionnées en début d'entrevue, à quel âge donc est-ce que les femmes touchées par ces conditions reçoivent habituellement leur diagnostic?
Ça dépend vraiment. Pour moi, comme exemple, je l'ai reçu seulement dans la trentaine, mais ça peut aller de début 20-25 ans jusqu'à 40 ans.
OK. Et j'ai lu dans le sondage là que c'est un projet, finalement, ce sondage-là, qui a été lancé à l'occasion de la Journée internationale des femmes en 2021 pour mieux comprendre les expériences des femmes à différentes étapes de leur vie, notamment sur la planification familiale, la santé sexuelle, la parentalité, la ménopause. Donc, ça intéresse tout le monde. Ce sont des femmes à différentes étapes de leur vie. Ça va même au-delà de 40 ans, si je peux me permettre.
Oui.
Et les résultats du sondage ont montré que les femmes manquaient d'informations sur l'impact de la maladie et de la médication sur leur vie sexuelle et aussi manquaient d'informations sur l'impact sur leur reproductivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Oui, absolument. Premièrement, c'est sûr que c'est long avant d'avoir une spécialiste, surtout au Québec, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est pas tous les médecins généralistes ou familiales qui ont toutes les informations pour les conditions et les traitements qui s'appliquent. Alors, c'est sûr, si ça prend beaucoup de temps avant d'avoir une spécialiste, les informations sont manquantes de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a certains traitements qu'on ne peut pas prendre si on désire fonder une famille. Il y en a d'autres qu'on doit arrêter durant la grossesse pour raison en tant qu'il n'y a jamais eu d'études de fait sur des femmes enceintes, etc. Alors, il y a beaucoup d'informations de ce côté-là pour les femmes en général qui manquent, qui veulent fonder des familles, vu que c'est pas quelque chose qui a été testé ou il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites et du côté que ça prend beaucoup de temps avant d'avoir une spécialiste au Québec.
Et le rapport formule 4 recommandations clés. Quelles sont ces recommandations?
Vraiment, c'est de exprimer les besoins. Je pense que c'est vraiment important que les femmes aient pas peur de poser des questions, être avocat pour eux-mêmes, de ne pas avoir peur de pousser pour avoir des informations.
Est-ce que vous trouvez, d'après votre expérience, vous avez constaté que les femmes étaient gênées de poser des questions?
Oui, d'un côté, ils sont gênés, puis d'un autre côté, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils devraient poser comme question parce que les informations ne sont pas vraiment disponibles. Alors, ils ne savent pas vraiment quand pousser pour avoir d'autres informations ou de voir un autre médecin. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils devraient poser comme question.
Alors, il faudrait que les médecins soient aussi dans le coup, là. Il faudrait qu'il y ait une conversation.
Oui.
Et l'éducation, donc, des patientes pour les aider justement à mieux formuler leurs interrogations, ça fait partie des recommandations?
Oui.
Oui?
Oui, absolument.
OK.
C'est toutes des questions aussi qu'on a des informations sur nos sites web respectifs. Il y a des informations pour les femmes s'ils ont besoin d'un genre de checklist ou des informations avant d'aller voir leur spécialiste.
C'est important là, d'avoir toutes ces informations-là pour être capable de poser les questions qui nous habitent, qui nous préoccupent. Et est-ce que vous avez d'autres recommandations, peut-être avoir de l'argent aussi là pour avoir des outils, des ressources?
Pas nécessairement de l'argent. C'est sûr que En tant que patient ou usager du système, c'est vraiment plus d'avoir accès aux ressources. Mm-hmm. Puis c'est là le problème. On n'a pas assez de spécialistes. Les listes d'attente sont vraiment longues. Pour moi, ça a pris 6 ans avant d'avoir une spécialiste et d'avoir ma diagnostic de psoriasis.
OK, vous l'avez vécu, vous, là. Vous savez de quoi il en retourne.
Ouais. Oui, ça a pris six ans avec un médecin généraliste. Ils m'ont traité avec plein de différentes affaires avant de finalement dire, ben là, on va t'envoyer en dermato pour aller voir parce que ça, tout ce qu'ils faisaient, ça fonctionnait pas. Alors, juste d'avoir le papier pour aller voir le dermato ou le spécialiste dans mon cas, ça a pris 6 ans avant d'avoir le papier, puis ça a pris un autre 8 mois pour avoir mon rendez-vous.
Mais là, est-ce que vous étiez enceinte à cette époque-là?
Non, ça, c'était avant que j'ai tombé enceinte, mais aussi, avec les dermatos, il y en a tellement pas beaucoup. Pour même avoir les suivis, c'est long. Puis dans le moment où j'ai tombé enceinte, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais pas vu mon dermato.
Oui, c'est vrai que...
Oui, les suivis, ça se faisait avec mon médecin de famille et le médecin qui suivait la grossesse.
Oui, alors il y a du travail à faire. Est-ce que vous voyez une sorte d'amélioration depuis toutes ces années-là?
Je trouve que ça n'a pas changé beaucoup. C'est sûr que les services aux patients, les compagnies pharmaceutiques qui ont des services de soutien aux patients, qui font des liens avec les médecins, que ça aide un petit peu à la communication. Puis il y a des fondations comme nous autres ou les autres qui sont sur la liste, qui sont là pour aider les patients à les diriger et donner d'informations. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, surtout en pandémie. On a perdu encore beaucoup de gens. Fait que ça reste à voir si ça va s'améliorer après, mais ça n'a pas changé tant que ça dans les dernières années.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent avec les maladies qu'on mentionnait tantôt, là, rhumatisme, psoriasique, arthrite inflammatoire? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
Je ne les ai pas devant moi, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui en souffrent. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas encore diagnostiqués parce que il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre avant d'avoir un diagnostic. Et au début, il y a beaucoup de symptômes qui ressemblent à autre chose. Fait qu'avant d'avoir un diagnostic, c'est quand même long, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints, puis il y a quand même beaucoup de gens qui attendent un diagnostic, qui ne le savent pas encore.
Et il y a Laurie Proux, qui est vice-présidente bénévole à l'Alliance canadienne des arthritiques, qui a dit « La planification de la grossesse est essentielle pour les personnes atteintes de ces maladies chroniques. » Il y a certainement des femmes qui ont ces maladies, puis qui ne sont même pas au courant que
oui,
la prévention, c'est important, que c'est la base de toute chose.
Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui vont le savoir après leur accouchement parce que le stress de l'accouchement sur le corps va faire sortir les symptômes.
Oui,
c'est l'effet sur le corps. Comme moi, je pourrais me prendre comme exemple, j'avais seulement une psoriasis plantaire avant. Puis après mon accouchement, c'est devenu plus généralisé. Fait que je l'ai comme au genou, au coude. Puis je ne l'avais pas comme ça avant. Fait que c'est vraiment le stress que la grossesse peut apporter sur le corps qui peut faire sortir les symptômes qui n'étaient pas là avant ou causer un relapse, comme on dit. Là.
Est-ce que votre dermatologue continue de vous aider?
Oui, quand je peux l'avoir.
Oui, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement facile d'obtenir un rendez-vous avec un dermatologue. En général.
Non, c'est ça. En général, c'est long. Puis pour faire des suivis, vu que c'était pas quelque chose qui était assez avancé avant, je le voyais moins fréquemment. Mais même là, que ça s'est avancé un petit peu, j'ai encore de la difficulté à avoir des rendez-vous en tant que tel. Mais j'ai un médecin de famille qui est quand même assez connaissant dans le psoriasis. Alors,
oui.
Elle m'aide beaucoup là-dedans. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui...
Bien, c'est ça qui est important, hein, de trouver un médecin qui s'implique, qui prend la chose au sérieux. Puis je disais, ça, c'est très troublant. 87 % des participantes au sondage s'inquiètent de l'impact de leur maladie sur leur santé mentale, mais seulement 16 % ont un professionnel de la santé mentale au sein de leur équipe de soins, parce que ça peut aussi provoquer des problèmes de santé mentale quand on se sent comme... presque abandonné, là. On n'a pas de ressources.
Pas de ressources. Ça peut mener à la dépression, ça peut amener à l'anxiété. C'est sûr qu'on n'a pas contrôle de ce qui nous arrive et on n'a pas accès à les informations ou les professionnels pour nous aider, ça cause beaucoup d'autres problèmes de santé mentale. Fait que je trouve que c'est très important de trouver une façon de gérer ces émotions-là. Et parce que ça aussi, le stress ou la dépression, la santé mentale, ça joue beaucoup sur les problèmes inflammatoires sur le corps. Fait que ça peut causer, comme j'ai dit tantôt, un relapse, comme on dit en anglais, mais ça peut causer ces symptômes-là à être plus présents. Alors, ça joue, c'est vraiment holistique, c'est vraiment le corps au complet. Fait que ça prend vraiment une équipe de soins intégrée, santé mentale, un spécialiste, un médecin familial, puis quelqu'un qui... faut pas avoir peur de poser de questions, puis de vraiment dire comme, là, je me sens pas bien, puis j'ai besoin de d'autres ressources. Où est-ce que je me dirige?
Oui, c'est la première chose à faire et à dire, de l'exprimer. Mais pour l'exprimer, il faut savoir qu'on peut le faire et oui. Savoir comment le faire. Et il y a les quatre organismes, donc l'Alliance canadienne des arthritiques, l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis, le Réseau canadien du psoriasis et l'Association canadienne des spondylarthrites vont oui. pas rester les bras croisés. Là. Ils veulent développer des outils, des ressources. Ça va se faire quand, ça?
Ah ben là, c'est là, puis on, okay. on travaille dessus en ce moment, mais oui, les ressources sont là, puis on travaille vraiment, on veut être là pour les femmes puis les gens en général qui ont besoin d'aide de ce côté-là. Fait, ils peuvent contacter n'importe quelle des organisations sur la liste, puis il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir donner d'informations, puis il y a beaucoup d'informations sur les sites web respectifs, là. Fait que les informations sont là.
Alors, il faut s'en servir. Il faut sensibiliser tout le monde, les femmes et aussi leurs médecins et les spécialistes, dermatologues, oui. rhumatologues, etc. Kimberly exactement. Séguin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, merci beaucoup.
Bonne chance pour la suite.
Merci.
C'était Kimberly Séguin, infirmière, nouvelle maman, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Et prenez note que le mot « relapse » signifie « rechute ».